Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip and zip it, lock it.
Nous sommes les élèves du dispositif Ulysse du lycée de Plébin.
Nous avons rencontré Pierre-Yves Cavella du Fab Lab et Marine Roger de la Maison des Minéraux à Crozon.
Comme certains d'entre nous sont en formation menuiserie, ça nous intéresserait de savoir comment fonctionnent les machines du Fab Lab.
Technologique.
On écoute d'abord Pierre-Yves Cavella, Fab Manager, nous parler du fonctionnement du Fab Lab.
Quand l'aventure du Fab Lab, Silex et compagnie a commencé?
Ça a commencé en 2023. Voilà, le début de l'année 2023 et l'aventure elle a commencé déjà. Vous voyez, là, on marche tous sur du parquet. Donc, en fait, ça a commencé par aménager les lieux. Et en fait, la première étape, c'est effectivement aménager les lieux. Puis, on a vu tout à l'heure, peut-être que vous avez vu, il y a du mobilier. Il y a du mobilier pour poser les machines, pour ranger tout le bazar. Donc, il a fallu le fabriquer. Ça a été la première étape. Le début de l'aventure, ça a été ça. Donc, on était 6 marteaux... à quatre pattes, sur l'établi à fabriquer tout cet aménagement.
Comment fonctionne le Fab Lab en général?
Alors ça, c'est une bonne question. Ça marche de différentes manières, en fait, puisque ça dépend des moments, ça dépend des gens qui sont présents. Le fait est que le Fab Lab, il existe puisqu'il y a une équipe de bénévoles. Et donc, il y a des rencontres régulières avec les bénévoles qui viennent soit animer des ateliers pédagogiques, soit fabriquer différentes choses. Donc, en fait, c'est difficile de dire, on ne peut pas dire que toutes les journées, en fait, sont différentes. Il n'y a pas forcément une régularité. Et moi, j'ai coutume de dire qu'il se passe dans le Fab Lab ce que les gens apportent comme idée, comme proposition, comme énergie, comme initiative. Donc, en fait, il y a très peu, on va dire, de planification, de grosses planifications au démarrage. C'est plus des rencontres. Souvent, on fait des rencontres. On dit, tiens, ça pourrait t'intéresser ce lieu-là. Et on retrouve les gens, 2 mois après, à fabriquer ou alors à animer des ateliers X ou Y.
Est-ce qu'on peut venir sans compétences manuelles au Fab Lab?
Alors, oui, 2 fois oui. C'est une chose que moi, je trouve intéressante dans un Fab Lab, c'est que finalement, on est tous sachants de quelque chose. Alors, des fois, s'il y a des artistes, ils ne sont pas trop au fait des outils, tout ça. Il y a des artistes qui peuvent venir avec des idées. Ils disent, mais moi, j'ai besoin d'eux, j'ai une envie d'eux, j'ai l'idée d'eux. Et en fait, une des choses que l'on va essayer, en tout cas, de faire au Fab Lab, c'est de mettre ces gens-là en relation avec des gens qui, pour le coup, eux, ils sont un petit peu menuisiers ou ils savent utiliser l'imprimante 3D. Vont pouvoir effectivement mettre en forme et réaliser une idée, une demande qui émane de quelqu'un qui n'est pas un bricoleur ou un technicien, etc. Moi, je trouve ça très très important dans les Fab Labs, ce mélange-là des différentes personnes.
Quelles sont les spécialités dominantes de votre Fab Lab?
Là aussi, ça dépend des bénévoles. On a des bénévoles qui sont vraiment pas mal du tout sur l'électronique et la robotique. Donc on a un peu conçu, animé des ateliers fabrication de robots avec les enfants. Et puis le constat que nous, on fait ici, c'est que mine de rien, la découpeuse laser que l'on a vue tout à l'heure, elle nous sert pas mal, à la fois sur des aménagements pour le musée, la boutique du musée, et à la fois sur des fabrications, comme cette espèce de bidule là qu'on a sur la table. Il y a un globe, sur un axe, sur un support, etc.
Attendez. Pierre-Yves vient de parler d'un bidule sur la table.
Au moment de l'interview, il y avait au milieu de la pièce un drôle de globe en cours de fabrication.
Ce globe un peu spécial doit servir à la Maison des Minéraux pour un atelier pédagogique sur le climat.
Le Fab Lab a fabriqué la structure en contreplaqué et les molettes de serrage.
On laisse Erol vous décrire ce globe.
Et Marine Roger, médiatrice scientifique à la Maison des Minéraux, vous en dire plus sur son utilisation.
C'est un globe terrestre avec une armature en contreplaqué, avec des modules, je dirais, imprimés en 3D, avec des cartes électroniques posées par-dessus.
Comment c'était fabriqué le globe ?
Alors le globe, on ne l'a pas fabriqué, on l'a trouvé sur le bon coin, il me semble. C'est même Pierre-Yves qui a trouvé ce globe sur le bon coin.
À quoi servent les cartes posées sur les armatures imprimées en 3D vertes?
Alors, ce sont des capteurs de lumière. Ici, vous avez un globe voilà, qui représente la Terre. Et nous, on va avoir une source lumineuse un peu plus loin. Et donc, l'idée va être de pouvoir capter, avec ces petites cartes qui sont des capteurs, de pouvoir mesurer la luminosité atteinte au niveau du globe. À différents points de cette latitude, vous avez différents capteurs. Et donc, on a une source lumineuse qui est un petit peu en amont. Et donc, on va avoir différentes valeurs de lumière à ces différents points de latitude. Voilà.
À quoi ça sert le globe ?
Alors c'est vrai que ce n'est pas juste un globe, comme ça a été bien décrit juste avant. C'est un globe sur une structure avec un arceau en bois qui contient ces petits capteurs. Et puis on voit qu'il y a des modules qui ont été imprimés en 3D et qui servent effectivement à pouvoir incliner plus ou moins le globe et à le tourner en fait. Donc à l'origine, ça fait partie d'un projet pardon, plus général sur le climat. Hein, c'est nous d'un projet interne qui s'appelle Climapic. Et l'idée ici, ça va être de pouvoir communiquer via un atelier où on va pouvoir toucher, on va pouvoir expérimenter et pouvoir mieux se rendre compte en fait, des paramètres qui influencent le climat. Le climat, il est tributaire du soleil. À l'ordre général, c'est l'énergie qui est disponible à la surface de la Terre qui vient déterminer l'ensemble des climats. Ils ont beaucoup varié. Et en fait, cette énergie disponible, elle dépend de la distance Terre-Soleil. Et il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte. C'est les paramètres astronomiques qui vont rentrer en compte justement dans ce rayonnement solaire qui atteint la Terre. Et donc l'idée de cet atelier, ça va être en fonction des positions du globe, de son inclinaison, de sa position par rapport au Soleil qui varie dans le temps sur des milliers à des dizaines de milliers d'années, de pouvoir essayer d'évaluer la quantité d'énergie solaire reçue. Et donc l'idée, bah voilà, on a ces petits capteurs qui sont placés le long d'une latitude. Et donc on va pouvoir voir à un instant T, dans cette configuration, la quantité d'énergie solaire reçue. Et puis dans un autre cas, qu'est-ce que ça donne ? Et ça donne un aperçu voilà, de l'influence du rayonnement solaire sur nos climats. C'était l'idée de pouvoir un petit peu manipuler avec cet objet.
Est-ce que vous intervenez avec ce joli globe dans les établissements scolaires ?
Alors, c'est en phase de conception. On a eu 2 semaines vraiment déjà pour savoir qu'est-ce qu'on voulait vraiment faire comme atelier, qu'est-ce qu'on voulait montrer. Ensuite, il y a eu toute une phase de création. Et puis, on a testé en bas dans le musée. Donc aujourd'hui, on ne sait pas exactement dans quel cadre il va nous servir. Dans l'idée, à terme, on aimerait bien effectivement que ça puisse être un module, qu'on puisse l'embarquer voilà, dans une des voitures et pouvoir se déplacer avec. Aujourd'hui, en l'état, ce n'est pas le cas. Ce sera plus à l'étage avec des scolaires qui viendront faire les sorties à la fois terrain pour aller voir les objets géologiques aussi. Et l'après-midi, pouvoir aborder ces problématiques de variation climatique et de pouvoir toucher. Mais à terme, effectivement, ce serait l'idéal de pouvoir se déplacer.
C'était Marine Roger, médiatrice scientifique à la Maison de Minéraux qui nous a parlé de globe.
On retourne à l'interview de Pierre-Yves Cavella, Fab Manager au Fab Lab de Crozon.
Est-ce que l'IA pourra aider les bénévoles pour pallier au manque de fréquentation au Fab Lab ?
Alors ça, c'est une bonne question. En tout cas, ce que je sais, ce que l'on constate, c'est que l'IA, effectivement, nous sert déjà. Et c'est plus notamment quand on va faire de la conception, de la fabrication, dès qu'il y a de l'électronique, de la programmation, et ben, le constat que l'on fait, c'est que c'est bien, bien utile.
Quel est votre point de vue sur l'IA ? Serons-nous plus bêtes ou pas ?
Ça, c'est un vaste sujet qui fait débat aussi en interne, puisque l'IA, ça pompe de la ressource. Hein, c'est bien pratique, mais ça consomme quand même pas mal de ressources. Le constat que l'on fait, et là, je parle un peu pour l'équipe, puisque toute l'équipe de la Maison des Minéraux a, à un moment donné, plus ou moins, expérimenté l'IA. La chose qui est sûre, c'est qu'il faut être capable, quand on demande quelque chose à l'IA, il faut être capable d'avoir un avis critique sur ce qu'on l'a demandé. Et donc, moi, je disais tout à l'heure qu'effectivement, eh ben, on se rend compte que c'est bien, bien utile pour la programmation. Mais encore faut-il avoir suffisamment de bases en programmation pour remanier le programme, parce que des fois, il y a des bugs. Des fois, ça ne fait pas exactement ce que l'on a demandé. Et je pense qu'effectivement, peut-être un risque, mais ça, on le verra dans les générations futures, je ne sais pas. Il y a un risque qui est mentionné, en tout cas, par tout un tas de gens, de se dire, oui, mais si on laisse l'IA réfléchir, entre guillemets, à notre place, si nous, on ne réfléchit plus, qu'est-ce que l'on va devenir ? C'est quand même le propre de l'homme d'utiliser son cerveau, quoi.
Est-ce que, selon vous, les robots, plus tard, s'ils sont assez expérimentés avec l'intelligence, est-ce qu'ils risquent de remplacer les personnes dans le bâtiment ?
Moi, je me dis que tant qu'il faudra des humains à l'accueil pour interagir avec les humains qui visitent le musée, il va se passer du temps avant que les robots puissent remplacer cette fonction-là. Et par contre, je me dis que si le sujet, c'est de faire tel petit programme et j'ai cette compétence, moi, pour le faire, effectivement, l'IA sait déjà le faire. En tout cas, dans les interactions d'humain à humain, on a encore de la marge. Notamment sur les... Là, vous avez de la chance, hein. Vous vous destinez à des métiers techniques, ça va être compliqué de remplacer les carreleurs ou les poseurs de fenêtres par de l'IA dans l'immédiat.
Comment concilier écologie et technologie ?
Vous avez plein de questions pièges, hein, mais c'est des vraies questions de fond, ça, dans les Fab Labs. Alors moi, je dirais qu'il y a un axe qui est que on a fait le tour des locaux. On a vu des outils high-tech, vous savez, c'est du numérique, etc. On a vu peut-être des marteaux aussi, des choses comme ça. Des outils plus traditionnels, des outils qu'on pourrait dire low-tech. Et donc, une des approches, peut-être, c'est de se dire qu'effectivement, est-ce que moi, j'ai besoin d'aller utiliser l'IA et puis de faire des plans numériques sur mon ordi pour aller découper une planche rectangulaire ? Ou est-ce qu'avec une simple CEGWING, ça marche très bien, en fait, hein, je peux effectivement faire la même chose, voire peut-être même plus rapidement. Donc, peut-être que l'approche, effectivement, c'est d'essayer de réfléchir au bon outil, peut-être celui qui consomme le moins d'énergie pour aller faire les choses. Mais c'est vrai que la tentation peut être grande de partir à la facilité, donc il faut essayer de se re-questionner. Donc c'est bien, on a des débats aussi dans l'équipe. Ça permet de se dire, essayons peut-être de faire plus simple et moins plus économe en ressources, en énergie, etc.
Est-ce que les machines, c'est facile à utiliser ?
J'y arrive, donc moi j'aurais tendance à dire oui. En fait, le sujet, je pense que c'est beaucoup une question de temps. C'est-à-dire, à mon sens, il n'y a pas de machine ici, d'une manière générale, dans les Fab Labs, qui nécessiterait, vous savez, d'avoir une thèse, un truc très compliqué, là, d'avoir fait des grandes études, ce qui n'est pas mon cas. C'est plutôt la question du temps. C'est-à-dire que, finalement, si tous les gens qui sont dans la pièce ici, ils passent 10, 15, 20, 30, 50 heures sur telle machine, à un moment donné, vous allez devenir expert. C'est mécanique, hein. Donc en fait, c'est plus la question de passer du temps. Et on disait tout à l'heure, on parlait d'apprentissage par le faire. En fait, ici, dans les Fab Labs, on apprend, non pas assis sur sa chaise, la théorie. On apprend directement au pied de la machine. On appelle ça l'apprentissage par le faire. On fait, on apprend en faisant. Moi, j'ai appris comme ça à bricoler, à faire la menuiserie, en faisant.
Vous êtes combien à travailler au Fab Lab ?
Alors moi, je suis en charge spécifiquement, c'est moi. Et puis après, il y a toute une équipe de bénévoles, petite douzaine. Et puis, en fait, il y a aussi toute l'équipe de la Maison des Minéraux. Donc, ce sont des médiateurs scientifiques. Et en fait, on les croise aussi dans le Fab Lab, puisque là, les projets qu'on a vus un peu sur la table, ce sont des projets dits de médiation scientifique. Donc, en fait, pour concevoir les choses, il faut que ces médiateurs scientifiques-là investissent le Fab Lab pour travailler avec moi ou d'autres techniciens à la fabrication des choses.
Est-ce que vous utilisez des EPI ?
Les EPI, ce sont des équipements de protection individuelle.
Oui, puisqu'en fait, il faut toujours travailler un peu ces questions-là. Ça touche à la sécurité des individus. Donc, on disait tout à l'heure, on est tenu dans un Fab Lab, comme dans tous les ateliers, un Fab Lab, c'est un atelier, d'utiliser le matériel de protection des individus. Donc, ça peut être des casques pour les oreilles quand on découpe l'acier circulaire. Ça peut être des gants. Et puis après, il y a tous les systèmes d'évacuation. On a vu tout à l'heure que la découpeuse laser, là, les gaz sont extraits vers l'extérieur, de manière à ne pas intoxiquer les utilisateurs à l'intérieur. Donc effectivement, ça c'est important.
Merci
aux auditeurs
et auditrices
de Transistor.
Et merci au Fab Lab
de nous avoir accueillis.
Moi j'ai bien aimé les pierres phosphorescentes.
Moi perso c'était dans les vitrines avec les pierres précieuses qui ont été trouvées dans l'ouest du Finistère, surtout à Crozon. Technologic, technologic, technologic.